Ce matin dans Rencontre, Lise a pu s'entretenir avec Eric Toledano, réalisateur qui vient nous parler de son dernier film dont tout le monde parle d'ailleurs en ce moment. Juste une illusion, c'est le titre de ce film réalisé comme d'habitude avec son comparse de toujours Olivier Nakache et interprété par Camille Cotin et Louis Garrel. C'est une comédie douce, amère, très personnelle qui parle des années 80, de l'adolescence et de l'illusion que furent les années de lancement de SOS Racisme. Une ode à une France qui n'existe plus, c'est presque une question. On écoute Eric Toledano, il est au micro, je vous le disais, de Lise Benkemoun.
Eric Toledano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On est là pour parler de Juste une illusion, comme d'habitude, réalisé et écrit avec votre compère Olivier Nakache. Ça démarre très bien, c'est même le meilleur démarrage depuis Intouchable. Vous êtes un peu soulagé ?
Je suis heureux, oui, heureux, soulagé. C'est pas que j'étais pas inquiet, ça pourrait paraître prétentieux, mais j'étais inquiet du partage de la réception, et la réception, si elle avait été moins nombreuse, m'aurait touché quand même. Mais je suis heureux, plus que soulagé, heureux, disons que c'est le terme qui correspond, et Olivier aussi.
Bien sûr. Alors, il y a effectivement un côté nostalgique dans ce film. Vous reprenez votre adolescence, notre adolescence, puisqu'on est de la même génération, et vous êtes allé très loin dans les retours des musiques, des marques, des affiches sur les murs. Vous avez vraiment été très précis pour ce voyage dans le temps.
C'est la première fois qu'on fait un film qu'on pourrait qualifier d'époque. On a toujours travaillé sur des films très contemporains. Donc l'idée, c'était d'essayer de recréer un monde qui a disparu. J'ai entendu une expression qui m'a plu par un de vos confrères qui disait « Ils ont évolué dans le liquide amniotique des années 80 ». C'est notre liquide amniotique, c'est l'endroit dans lequel on a vu et vécu notre adolescence. Donc il fallait être précis parce que c'est quelque chose qu'on a vécu et puis qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu. Dans les salles, les gens ont un point d'accroche pour se remémorer ou pour rentrer. C'est comme des portes pour rentrer dans leur intimité. C'est-à-dire, est-ce que c'est la couleur d'un papier peint? Est-ce que c'est la valise RTL à la radio? Est-ce que c'est la forme d'une lampe? Chaque élément doit presque être... Nous, ce qu'on avait demandé à Jean Rabas, qui est notre chef décorateur, c'est on voudrait presque sentir l'odeur de l'appartement de notre enfance. Mais c'est pas une nostalgie de souffrance ou une nostalgie passéiste qui dit c'était mieux avant, parce que le film raconte aussi les difficultés économiques, le chômage, le racisme, le sida. C'est-à-dire le contexte des années 80, c'est peut-être une nostalgie de notre enfance à nous, comme tout le monde l'est un petit peu de la période où on découvre la vie et toutes les premières fois, toutes les premiers sentiments, les premières sensations.
Alors effectivement, c'est d'abord et avant tout un film sur l'adolescence et le jeune que vous avez choisi et qui joue votre héros, Vincent, qui va bientôt faire sa bar mitzvah, il est sincèrement extraordinaire.
Écoutez, je peux pas vous contredire, parce que moi j'ai cherché, on a avec Olivier vu 2000 candidats, et c'est vraiment désespéré et en fin de parcours qu'on est tombé sur Simon Boublil, qui nous a époustouflé en casting et qui nous a surépoustouflé au moment du tournage. 51 jours de tournage pour un enfant de 13 ans. Je sais pas si vous imaginez l'attention qu'il peut y avoir autour de lui, d'une équipe de 100 personnes et le poids de tenir le film, parce que même s'il y a des grands acteurs comme Louis Garrel, Pierre Notin ou Camille Cotin, le film repose quand même beaucoup sur lui et sa vision des choses.
Ouais.
Donc ça a été un bonheur de le rencontrer et de le trouver.
Mmh. Alors effectivement, il prépare sa bar mitzvah, mais c'est pas la chose la plus importante du film. Comme à l'époque, on savait qu'on était juifs, nos copains qui ne l'étaient pas le savaient aussi, mais c'était pas quelque chose qu'on allait dire dans les 5 premières minutes quand on rencontre quelqu'un. Et on a l'impression, Eric Toledano, que ça depuis ça a changé.
La grille de lecture sur l'identité, à l'évidence, elle a changé aujourd'hui. On exalte beaucoup nos différences, on est moins dans le commun, on est moins dans ce qu'on a en commun. Et c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, avec Olivier, on a choisi de traiter de l'adolescence, parce que c'est comme si c'était un socle par lequel tout le monde est passé. Il y a un moment où on est égaux là-dessus, il y a quelque chose où on ne peut pas chercher de différence. Les premières fois où on est tombé amoureux, les premières fois où on a découvert que ses parents n'étaient pas des héros, les premières fois où on a compris vraiment... quel était le monde qui nous entourait, les premiers désirs, même les premiers rapports au sexe. Tout ça, c'est un passage obligatoire chez toutes les petites filles, tous les petits garçons qui évoluent. Et donc, on avait besoin justement de ramener du commun là où il y avait trop de différences et trop de revendications de différences, parce que voilà, c'est effectivement cette grille de lecture qui a complètement bougé.
Vous avez repris justement dans le film ce fameux meeting de 85 de SOS Racisme. Malheureusement, ça n'a peut-être pas donné toutes ses promesses quand on regarde la situation aujourd'hui en 2026.
Non, c'est pour ça que le film s'appelle Juste une illusion, parce que on revient sur les illusions de notre jeunesse, et il faut de temps en temps remarquer d'où on est parti, à quoi on a renoncé pour pouvoir avancer mieux dans l'existence. Effectivement, SOS Racisme a peut-être pas tenu ses promesses, mais l'élan duquel il est parti, dans lequel nous, à notre génération, à 13 ans, répondait à des questions d'identité, à notre intimité, à savoir qui est-on? En fait, qui on est, nous? Est-ce qu'on est plus français? Est-ce qu'on est plus nord-africain? Quelle est notre identité? Ça répondait par quelque chose, un élan qui était de dire, est-ce que c'est si important? L'essentiel, c'est de vivre ensemble dans les mêmes règles et dans les mêmes respects. Et ça, on peut être en deuil de ça. Ça peut nous manquer. Ça veut pas dire, parce que ça n'a pas marché, que l'élan était mauvais et qu'il fallait pas mettre en exergue cette envie d'être ensemble. Aujourd'hui, on a bien compris. L'envie d'être ensemble, on a de plus en plus de mal à se manifester. Et puis nos enfants qui grandissent dans ce monde-là, on avait peut-être envie de leur montrer qu'il y a eu d'autres modèles et que ces modèles-là, un jour, pourraient se réactiver. Peut-être d'une autre manière, peut-être en tenant leurs promesses, mais en tout cas, ils ne sont pas à nier complètement et à occulter complètement.
Alors évidemment, on rit, il y a du divertissement, il y a une scène de danse comme dans presque tous vos films, Camille Cotin, fantastique là-dessus, il y a une bande son qui nous ramène effectivement dans les années 80. Mais moi, j'avoue, Eric, à la fin, sincèrement, j'ai pleuré, et ça, j'imagine que je suis pas la seule.
Non, je vois que les gens ont les yeux mouillés en sortant, mais en réalité, il faut pas se mentir. Le film est dédié à nos papas qui sont partis pendant le tournage en plus, mais je crois qu'on sentait qu'ils allaient partir. Et j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il disait, quand un être s'en va, il y a un monde qui s'en va avec lui. Je crois que c'est ce monde-là qu'on a voulu essayer de retenir un peu, c'est-à-dire le décorum de notre enfance, nos parents dans la force de l'âge, avec leur parcours complexe, arrivé d'Afrique du Nord, s'adapter dans un nouveau pays dans un temps record, essayer de se conformer, comme le dit le film parfois, de ne pas faire de vagues, de rester discret, mais en même temps de trouver sa place dans le trafic, comme le dit la chanson qui est dans le film. Et donc, effectivement, à la fin, tout se mélange, nos souvenirs, le point de vue du petit, et on abandonne ce monde parce qu'à un moment, c'est ce que permet le cinéma, et c'est peut-être l'illusion suprême, c'est qu'on arrive un peu à capturer du temps qui s'éloigne et qui ressemble un peu à des films 8 millimètres. Alors, conjugué avec une très belle musique de François de Roubaix, qui par le plus grand des hasards s'appelle Dernier domicile connu, ici du film de José Giovanni, peut-être que c'est l'émotion qui étreint. Mais en tout cas, nous, on a toujours voulu faire un mélange entre le rire et l'émotion. C'est notre corde à nous, c'est notre ADN. On a envie qu'au cinéma, on ressente les choses de façon forte, physique presque. Donc, s'il y a des gens qui se marrent jusqu'à arriver à verser une larme, c'est que le film n'a pas laissé indifférent et ça nous suffit pour avancer et continuer à faire d'autres films.
Alors, il y a effectivement aussi ce côté difficile pour ce papa, ce père de famille qui est au chômage, comme beaucoup de gens à cette époque, le premier mandat de François Mitterrand. Et finalement, ça a beaucoup aussi d'écho aujourd'hui, Eric, dans la France d'aujourd'hui et avec des problèmes économiques.
Oui, bah, c'est-à-dire, l'idée, c'était de capturer l'air du temps à travers cette famille. Donc, dans cette famille, il y a un grand frère qui, lui, est complètement adepte d'un mouvement auquel Olivier Nakache a adhéré très fortement, qui est la Cold Wave, c'est-à-dire, c'est déguisé en Robert Smith et il a peut-être un côté un peu tribal. Il y a le père qui est au chômage, mais qui ne le dit pas, parce que c'est des familles où il y a beaucoup de faux-semblants, où on fait, on est pudique, on ne communique pas toujours toutes ces sensations. Il y a une femme qui est dans une pleine émancipation qui représente un peu aussi celle de nos mères, c'est-à-dire qui ont commencé à arriver aussi à avoir d'autres modèles et à vouloir prendre l'ascenseur social. Et donc tout ça, c'est des mouvements à l'intérieur des années 80 qui elles-mêmes sont des années en mouvement, un entre-deux entre la fin des années 70 et puis la fin de la chute du mur, coincé entre les deux. Et c'est tout ça que le film essaye de décrire pour capturer une photo de l'époque.
Alors, The Cure, c'était plutôt Olivier Nakache et le funk, c'est plutôt vous?
Voilà, exactement. Vous avez tout résumé. Moi, j'étais plus déprimé, mais avec une musique qui me remontait le moral. Et lui, il était plus en forme, mais habillé en noir. Donc, c'est tous les paradoxes. C'est nos points de rencontre à nous.
À quel âge vous vous êtes rencontrés exactement?
On s'est rencontrés en sortie d'adolescence, plutôt vers 17 ans, dans un mouvement qui s'appelle Yaniv.
Et vous êtes plus quittés depuis. Et ce qui étonnait toujours Jean-Pierre Bacri, c'est que vous ne vous disputez jamais, Eric.
Oui, c'est vrai que ça l'énervait un peu. Il disait, vous ne pouvez pas vous engueuler un peu, que ça fasse normal. Mais en vérité, il ne le sait pas, mais on s'engueule quand même beaucoup, hein. Enfin, on se dispute pas, mais on se confronte. Et ces films que l'on propose au public sont quand même le résultat de nos confrontations. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont toujours au moins un double point de vue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un rapport conflictuel, on va dire.
Ma dernière question, Eric, vous étiez fan de cinéma depuis très longtemps, Olivier aussi, vous connaissez énormément de films et de cinématographies différentes et vous aviez envie de faire venir Claude Lelouch sur ce film. C'est un de ceux qui vous a inspiré, donné envie de faire du cinéma?
En fait, le film raconte aussi que le cinéma est consubstantiel de notre éducation, de notre façon de voir le monde. Parce que très vite, à l'âge de 13-14 ans, ça a été une fenêtre sur le monde qui nous a montré toutes les vies que l'on ne pourrait peut-être jamais vivre, mais que l'espace d'un temps, de 2 heures, auquel on allait pouvoir s'identifier. Donc c'est vrai qu'il y a du Claude Lelouch, il y a du Claude Sauté, il y a des films américains, il y a des films italiens. Et donc on les a mis dans le film de façon un peu caché comme ça. Et Claude Lelouch, c'est particulier, son film est mentionné dans Juste une illusion à plusieurs reprises. Sa musique, même des extraits d'Un homme et une femme, donc il a fallu le contacter. Et à notre grande surprise, quand on l'a contacté, on le connaissait un peu, il a dit, je viens, mais par contre, invitez-moi sur le plateau parce que j'aime bien cadrer certains plans et je veux cadrer un plan de ce film. Et donc il est venu une journée, il a cadré un des plans de façon un peu immortel. Dans ce film, il y aura toujours un plan tourné par Claude Lelouch. Et on aime beaucoup l'idée que les films dialoguent avec d'autres films, parfois de façon référentielle. Parfois, on fait des films avec un hommage à l'intérieur, une référence, une façon de filmer. Là, c'est carrément un dialogue à l'intérieur du film, entre ce film-là, Un homme et une femme, La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, dans plusieurs versions, les gens découvriront, et évidemment les films italiens des années 70, c'est-à-dire ces comédies italiennes qui avaient ce mérite de traiter de sujets graves avec beaucoup de légèreté et avec beaucoup de gaieté, et des grands acteurs comme Mastroianni ou Vittorio Gassman, auxquels on peut comparer, j'espère bientôt, Louis Garrel, dans cette élégance et cette puissance de jeu.
Et un petit clin d'œil aussi, vous apparaissez à l'écran, Olivier et vous, dans une scène assez inoubliable.
Cette cinéphilie aussi, pareil, mais ça, je laisserai les spectateurs
Trouver le
repérer
moment.
s'ils nous connaissent à quel moment on arrive.
Oui,
Voilà.
très bien.
Peut-être une future carrière pour Eric et lui.
Merci beaucoup, Éric
Merci
Toledano.
beaucoup.
Embrassez Olivier Nakache de notre part
C'est gentil.
et à très
Ciao.
vite. Au
À bientôt. Au revoir.
revoir.